Anna Pichel-Veillant, vous êtes psychologue clinicienne. Vous intervenez donc à l'hôpital de Digne, zone Saint-Christophe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore tabou, c'est le deuil périnatal. Et vous avez créé au sein de l'hôpital un groupe de parole.
Il existe un groupe d'élaboration du deuil périnatal sur l'hôpital de Digne depuis début 2016, donc un peu plus d'un an. Un groupe qui s'adresse aux mères endeuillées, ayant à vivre ce deuil singulier qu'est le deuil d'un enfant à venir, un enfant du dedans, qui souvent n'est pas facilement évoqué, compris, reconnu par la société, par la famille, par les soignants que nous sommes aussi.
Un deuil difficile à porter pour la femme qui le vit, et puis souvent mal compris, parce que, vous le disiez, si une femme est jeune, on a tendance à balayer en disant « tu en auras d'autres ».
Oui, il est souvent incompris et souvent, je dirais, difficile à aborder parce qu'il fait s'ériger en nous quelque chose d'une défense importante face à un insupportable. La mort, c'est violent. La mort, d'autant plus qu'elle arrive en maternité, dans un lieu supposé accueillir la vie, un lieu où on ne s'attend pas du tout à être confronté à la mort, un lieu où tout est censé être cause de bonheur à venir, de création d'une famille, de réjouissance familiale. Et pourtant, les chiffres sont là pour le dire, 20% des grossesses se terminent par une perte périnatale. Alors, ça peut sembler un chiffre extrêmement conséquent, important. Dans ce chiffre, on inclut évidemment les IVG, les fausses couches précoces et tardives, les interruptions médicales de grossesse, les morts fœtales in utero, les grossesses extra-utérines, les réductions embryonnaires, les morts à l'accouchement, évidemment très rares, heureusement, mais qui peuvent se produire, et les morts du nourrisson sur le premier mois de vie, puisque les pertes périnatales s'entendent entre le moment de conception et le premier mois de vie de l'enfant. C'est un chiffre important, mais qui se comprend au regard de ces informations.
Alors on a l'impression qu'à notre époque, avec les progrès considérables de la médecine, ça paraît hallucinant d'avoir des chiffres. Vous parliez de 1/5 de grossesses donc qui n'arrivent pas à terme.
Ça a toujours été le cas. La médecine aujourd'hui est présente, efficiente et elle intervient dans de nombreuses situations. Elle peut remédier à des difficultés repérées, diagnostiquées, mais elle n'est pas toute puissante. Et la nature nous confronte à ces chiffres qu'il nous faut accepter. Pour autant, ils sont irreprésentables, inattendus, et on est là du côté de quelque chose d'assez traumatique. D'où ce déni familial, sociétal, individuel, qui nous amène à faire que ces parents endeuillés, ces mères endeuillées, ont presque à subir une double peine, la perte périnatale de leur enfant à venir et une forme de sentiment de rejet, d'illégitimité, d'incompréhension, de déni que nous leur offrons, du moins que nous leur imposons, dans cette non-reconnaissance de la réalité de leur douleur. Elles n'ont pas l'impression que leur souffrance est reconnue. Ce non-avènement, on pourrait dire, peut être réduit à un non-événement et c'est doublement traumatique. Pour elles, elles seront à jamais différentes. Pour ces couples, il y a indubitablement un avant et un après. Cette perte reste une perte à élaborer, une perte profonde, intime, tue souvent, et qui vient laisser des traces durables si cette élaboration n'a pas lieu.
Alors, il y a la perte que ce soit un enfant dans le ventre à l'âge de 4 mois ou jusqu'aux 9 mois, la douleur est aussi vive.
Je dirais que ça dépend de chacun, de chacune. Chacun le vit en fonction de son histoire, de ce qu'il se représente, de ce fœtus bébé en devenir. Et il est vrai qu'il m'est arrivé de rencontrer des femmes ayant perdu un enfant très tôt dans la grossesse. Et je dis un enfant parce qu'elles le vivent comme tel. Certains diront un fœtus, un amas de cellules. Pour cette femme, il s'agissait d'un enfant et c'était particulièrement vif et douloureux. Pour d'autres, dans un terme plus avancé de la grossesse, la douleur est plus supportable. Donc il n'y a pas de norme, ça dépend de chacun et de ce qu'il a mis dans ce désir d'enfant et dans cette grossesse débutante.
Est-ce qu'il y a une recette pour faire le deuil d'un enfant comme d'un être cher?
En tout cas, je ne la connais pas. Il y a la possibilité de faire ce travail de deuil que je différencie du processus de deuil qui se fait de manière, je dirais, systématique, innée, spontanée, mais qui n'est pas du côté du travail. Le travail de deuil est un moment difficile, un moment d'introspection, un moment d'élaboration, un moment où l'on s'autorise à passer par différentes étapes du deuil, d'abord dans la reconnaissance de cette douleur, alors par soi-même, mais aussi par ce qui nous entoure, par l'hôpital, par l'institution, par la société. Et c'est ce que nous cherchons à offrir en offrant ce groupe de parole, parce qu'il est accueilli, et en cela je remercie l'hôpital. Il est accueilli au sein de cette institution médicale qui vient légitimer la douleur de la perte. Et ce faisant, il leur est plus facile d'entamer ce travail.
Est-ce que dans les personnes qui viennent, c'est vous qui allez à elles, comment ça se passe pour faire partie du groupe? Est-ce qu'il y a une réelle demande? Est-ce qu'elles vous sont envoyées?
Je travaille à la maternité de Digne, donc il m'arrive déjà de rencontrer in situ des femmes qui sont confrontées à cette perte périnatale. Les gynécologues obstétriciens du service m'adressent aussi des personnes, les sages-femmes m'adressent des personnes. Quand je dis m'adresse, nous adresse, nous sommes deux en fait à co-animer ce groupe. Donc Julie Guyot, qui est également psychologue clinicienne, et moi-même. Nous recevons des personnes qui nous sont également adressées par les médecins. Nous tentons depuis quelques mois de communiquer autour de ce groupe. D'ailleurs, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Nous avons aussi réalisé des flyers qui sont envoyés par mailing à tous les acteurs de la périnatalité du département. Nous intervenons à la demande d'institutions pour présenter ce travail également. Donc, vous voyez, c'est vaste, c'est encore en cours de processus parce que c'est toujours difficile d'en parler et que nous nous confrontons aussi au regard des soignants et des collègues qui ont du mal à parler de ce deuil. Mais ça vient.
Est-ce qu'il faut longtemps, donc chacune écoute l'autre, le fait de se réunir dans la même douleur, est-ce que ça permet aux unes ou aux autres de consoler?
Oui, alors ce groupe déjà, c'est un groupe qu'on appelle semi-ouvert. C'est-à-dire que pour y participer, on demande à ces femmes de venir nous rencontrer, ou Julie ou moi, en entretien individuel préalable. Alors c'est pas un examen qu'on passe, hein. C'est simplement un moment de rencontre où l'on échange sur le vécu des femmes qui sont là, dans cette demande. Et en fonction de l'élaboration qui a déjà pu être faite, de leur vécu, de leurs attentes, elles intègrent le groupe quasiment au moment où elles le demandent, dans la mesure où ça correspond à ce que peut leur offrir le groupe. Il est important de pouvoir les protéger et de protéger les femmes qui sont déjà dans ce groupe. Ensuite, elles viennent dans ce groupe. Ce groupe se tient deux fois par mois, le lundi, de 14h à 15h30, ici à l'hôpital de Digne. Ensuite, effectivement, vous avez raison, l'intérêt du groupe, c'est de pouvoir échanger entre personnes ayant un vécu semblable, même si effectivement il est singulier et différent pour chacune d'entre elles, mais il est du même registre. Ça permet à chacune, par le jeu des identifications, de s'appuyer sur les ressources de l'autre, de se sentir comprise, de s'autoriser à parler ce qu'elles ont vécu, leur douleur encore présente, peut-être des années après. Ce groupe ne s'adresse pas aux femmes qui viennent de perdre un enfant, mais s'adresse à toutes les femmes ayant, se sentant endeuillées, ayant perdu un enfant en devenir, et qui souhaitent, même 10 ans après, entamer ce travail qui n'a pu se faire auparavant, pour se sentir apaisées peut-être, dans la compréhension et la reconnaissance de ce qu'elles ont vécu.
Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone?
Bien sûr. Il vous suffira d'appeler le secrétariat de la maternité de Digne, c'est-à-dire le 04 92 30 17 65, pour prendre rendez-vous avec nous et pouvoir participer à ce groupe.
Donc j'ai bien compris, des femmes qui ont vécu un deuil il y a quelques années peuvent aussi se joindre.
Bien sûr, si elles le souhaitent, si elles pensent pouvoir en bénéficier et y trouver quelque chose, ça dépend aussi de ce qu'elles attendent, ce qu'elles ont envie de faire. C'est vraiment à chacune de faire cette démarche. Elle sera accueillie, la bienvenue, et accompagnée d'abord par nous et aussi par toutes les femmes qui participent à ce groupe. Il y a vraiment beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Évidemment, aucun jugement. On demande aussi à ce que la confidentialité soit assurée. Et peut-être, j'aimerais pouvoir vous préciser, parce que vous ne m'avez pas posé la question, vous allez peut-être la poser, mais pourquoi recevoir uniquement les mères endeuillées et non pas les pères qui sont également dans la souffrance? Alors, bien sûr qu'ils souffrent. C'est un choix qui a été difficile à faire, que nous avons fait parce que, d'abord, je dirais que c'est le terrain qui nous a conduit à faire ce choix. Je reçois ici, évidemment, des femmes principalement, mais aussi des papas qui le souhaitent, mais évidemment principalement des femmes puisque nous sommes en maternité, et que ces femmes ont pu exprimer la différence de ce vécu au sein du couple, de ce deuil, douloureux pour chacun d'entre eux évidemment, mais différemment vécu, dans une temporalité aussi différente. Et beaucoup d'entre elles nous ont fait part de leur besoin d'exprimer quelque chose d'une intimité, notamment d'un vécu intime et corporel de cette grossesse et de cette perte. Un vécu qu'elles ont beaucoup de mal déjà à échanger avec leur mari, ce qu'elles ne font généralement pas. et qu'elle ne se voyait pas pouvoir faire avec, dans ces groupes, la présence des conjoints. Elles ont besoin de pouvoir l'exprimer entre femmes, se sentir comprises, peut-être être aidées par les mots que va poser la voisine sur un vécu qu'elles ressentent, mais dont elles n'ont pas encore la compréhension ou la possibilité d'élaboration, parce qu'elles ont peur de décevoir, parce qu'elles ont peur de choquer, parce qu'elles ont peur de ce que pourrait ressentir leur conjoint à leur côté par rapport à ces évocations. Donc nous avons fait le choix de ne recevoir que les mamans pour les autoriser à évoquer pleinement ce qu'elles ressentent, que ce soit du côté de la tristesse, du côté de la honte, quelquefois de la culpabilité, d'un sentiment de vacuité, bien souvent évoqué, et puis les aider, du coup, ce faisant, à reconstruire quelque chose, à revenir du côté de la créativité et de l'envie de vivre et d'avancer, mais non pas comme un robot, mais comme un sujet désirant.
Est-ce que ce groupe de parole est gratuit ?
Oui, bien sûr. Il n'y a rien à débourser, vous êtes accueillis. Il suffit d'être reçu ici en entretien avec nous, de correspondre à ce que le groupe peut offrir. Ce n'est pas une sélection, c'est simplement une volonté d'offrir quelque chose qui correspond aux attentes des femmes qui vont faire la demande. Et puis voilà, c'est complètement gratuit. Alors, il n'y a pas un nombre de séances définies, prédéfinies à l'avance. On vient dans ce groupe aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que souhaité. Il y a un entretien préalable et nous souhaitons recevoir les femmes qui désirent arrêter le suivi groupal. Nous souhaitons les recevoir aussi en individuel au moment de l'arrêt de la prise en charge thérapeutique, simplement pour pouvoir parler avec elles de la situation qui est la leur à ce moment-là, de leur désir d'arrêter le groupe qui peut être tout à fait entendu, pour les aider peut-être à repérer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins bien, de ce que nous avons pu voir, de leur mécanisme de défense ou de leur fonctionnement psychique, et les conseiller peut-être dans la possibilité de faire une prise en charge individuelle par ailleurs, si cela peut nous sembler judicieux pour elles, ou pas. Voilà, tout simplement, dans un désir d'accompagnement au plus près de la personne.